Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une sixième émission sur l'anthropologie chrétienne. Celle-ci prend en compte la dimension transcendantale en tout homme, ainsi que la dignité de la personne humaine en raison même de son origine, créée à l'image de Dieu. Nous vous proposons tout au long de cette année de découvrir ce qui fait la spécificité de la femme, sa beauté, sa vocation particulière. Et nous regardons aujourd'hui précisément ce qu'est la maternité spirituelle. Bonjour Camille de Certaine.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes mariée et mère de 5 enfants. Vous terminez actuellement un master en théologie du corps, en plus d'études de philosophie. Vous ne chômez pas en tout cas avec tout cela. Avec votre mari, vous accompagnez des couples dans les domaines de l'affectivité et de la sexualité. Vous avez aussi cofondé un parcours d'anthropologie chrétienne et de coaching à destination des lycéennes intitulé Mademoiselle Potentielle. Avant de parler aujourd'hui de la maternité spirituelle, j'aimerais bien que vous nous rappeliez en quelques mots ce que vous nous avez dit la dernière fois, évidemment pas tout, à propos de la vocation de la femme.
Oui, toute personne réalise sa vocation dans le don d'elle-même. Le don, c'est vraiment le mot-clé de la vocation. Et on peut rappeler cette citation de Gaudium et Spes, « L'homme, alors l'homme sous-entendu la personne humaine, seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. » Donc la vocation de la femme se réalise dans le don. Et le don féminin, on peut dire qu'il passe par 2 chemins, 2 modes, le mode complétif et le mode réalisatif. La femme, elle est appelée à déployer ses talents dans le monde, dans le travail, dans sa créativité, dans des projets, voilà, selon les dons qu'elle a reçus. Et la femme, elle est aussi appelée à compléter. Et donc ça passe par la maternité naturelle, par les enfants, la famille, le don d'elle-même à son époux, mais aussi plus largement tous les actes par lesquels elle se donne aux manières, aux personnes de manière plus large, à son entourage, à ses amis. Et c'est ça qu'on appelle la maternité spirituelle.
Alors, j'aimerais bien que vous nous donniez maintenant une définition quand même de cette maternité spirituelle.
Oui, la maternité spirituelle, on peut dire que c'est l'âme de la femme. Voilà, c'est-à-dire comment la maternité infuse la vie de toute femme, qu'elle soit mère biologiquement ou pas, et comment la maternité, elle infuse toute la vie de la femme, dans sa famille, dans son travail professionnel, dans toutes ses relations. En fait, la maternité féminine, on peut dire qu'elle conditionne la façon qu'a la femme d'entrer en relation avec le monde. Il s'agit d'accueillir, de se donner, d'amplifier le don reçu. Dans la Genèse, au chapitre 3, il est écrit « L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants ». Voilà, Ève, en hébreu, ça vient vraiment du verbe haya qui veut dire vivre. Voilà, la femme, elle est profondément mère.
La femme est profondément mère. Est-ce que vous pourriez quand même nous définir un cadre de ce qu'est la maternité ?
Oui, la première définition qu'on peut donner pour la maternité, c'est le fait d'accueillir la vie, le fait de porter la vie. Voilà, c'est vraiment avoir un enfant, c'est une maternité naturelle. Le corps de la femme est formé pour cela, par ses organes, par son cycle hormonal féminin. Vraiment, lors de chaque cycle, le corps de la femme se prépare à recevoir potentiellement la vie en elle. C'est un peu tout ce qu'on avait vu lors de la dernière séance.
Ouais. Mmh.
Mais donc, même si ça ne se réalise pas forcément, au niveau biologique, par la venue d'un enfant, mais tout le corps de la femme est maternel. En fait, la maternité, c'est vraiment co-naturel pour la femme, c'est indissociable.
C'est constitutif de sa,
oui, exactement.
De sa personnalité.
Ouais. Même si elle ne le sait pas, même si elle ne le sait pas encore, ou même si son cycle n'aboutit pas à la vie, en fait, c'est profondément inscrit en elle.
Et même si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas de vie conjugale, ou si elle est déjà plus âgée et qu'elle n'a plus ce cycle féminin.
Oui, on peut se poser cette question. Est-ce que, du coup, toutes les femmes ne seraient pas concernées ? Et en réalité, on est vraiment toutes concernées et nous ne pouvons pas faire fi de cette dimension maternelle de notre corps parce qu'elle va affecter notre âme, notre personne et toute notre vie. Justement parce que la maternité, elle n'est pas que naturelle, elle est aussi spirituelle. On a vu dans les premières séances que notre personne humaine, notre être, il était corps, cœur, esprit. Voilà, notre corps, c'est nous, mais on est aussi plus que notre corps, on est aussi notre esprit, notre cœur. Et donc la maternité, elle modèle notre corps. Mais on peut dire qu'elle modèle aussi notre âme de femme. Voilà. Et puis être mère, c'est pas uniquement des petites tâches quotidiennes comme changer des couches ou préparer des repas. Voilà, mais il y a vraiment quelque chose de spirituel qui se joue dans la simplicité de ses actes. Voilà, vraiment conduire nos enfants à la sainteté, être de sainte maman.
La maternité s'exerce de manière plus large qu'envers nos propres enfants, quand même.
Oui, c'est sûr, c'est valable pour nos propres enfants, mais c'est aussi beaucoup plus large. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de maternité spirituelle. On peut penser à une religieuse qui passe le balai dans son couvent et qui va offrir cet acte pour le salut des âmes. On peut penser à une grand-mère qui prend soin de son mari alors qu'elle n'a plus d'enfants à la maison. On peut penser aussi à une jeune fille qui écoute une amie. Voilà, des choses très simples, mais qui sont profondément spirituelles, ancrées dans le quotidien et ouvertes à la présence, en fait. Et donc, la femme, parce qu'elle est maternelle, donc dans ce sens très large, elle est la demeure de l'amour, elle est la demeure de la vie. Elle est le lieu d'une présence, le lieu vraiment de la présence de Dieu. Bénédicte de Lélis, elle a cette très belle phrase, elle écrit que la paternité et la maternité sont une histoire sainte où Dieu est présent, où Dieu se donne.
Oui, c'est très beau parce qu'en fait, dans cette paternité et dans cette maternité, on devine vraiment cette présence de Dieu parce qu'il y a ce don.
Oui, c'est la source.
C'est la source, exactement. Alors, vous entendez dans la maternité le fait d'accueillir la vie. Est-ce qu'il n'y a pas un autre aspect de la maternité?
Voilà, ça c'est le deuxième, on va dire la deuxième définition un peu plus large de la maternité. Donc la première définition, c'est accueillir la vie, porter la vie. La deuxième, si on élargit un peu, la deuxième définition, c'est engendrer, faire naître, mettre au monde. Voilà, on voit que le sens s'élargit parce que évidemment on peut faire naître un enfant, mais aussi on peut aussi faire naître de nombreuses choses ou de nombreuses personnes avec qui on n'aura pas de lien de sang finalement. La femme, elle a cette capacité à l'intériorité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire recevoir dans son cœur, laisser mûrir, laisser grandir. Et aussi porter du fruit et faire porter du fruit aux autres. Et ça, c'est tout le sens de l'éducation. Nos propres enfants et tous les autres enfants qui pourraient nous être confiés. Un enfant, il est né une seule fois, mais notre rôle d'éducatrice, eh bien, ça va être de le faire naître petit à petit à la plénitude de la vie, de l'aider dans sa maturation de personne, de passer de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte. Voilà, on voit, ça peut être aussi valable pour toutes les personnes qui pourraient nous être confiées par la vie, des amis, des personnes qu'on pourrait aider, qu'on pourrait accompagner. Il y a cet exemple très beau de Sainte Monique et de Saint Augustin. Augustin considère vraiment que sa mère Sainte Monique a pleinement accompli sa mission de mère lorsqu'elle l'a enfanté à la foi, à la vie de la grâce, par son baptême. Il a été baptisé adulte.
Et elle a beaucoup prié pour sa conversion.
Ah oui, hein. Beaucoup prié, beaucoup pleuré. Elle a été pleinement mère. Et en fait, Sainte Monique est morte juste après le baptême de Saint Augustin, comme si elle avait terminé, entre guillemets, de le mettre au monde, de l'enfanter à la vie spirituelle. Voilà, donc on voit vraiment cette notion de maternité spirituelle. Et voilà, qu'on peut éprouver aussi quand on accompagne une personne, quand on conseille une personne, voilà.
Oui, ce n'est pas réservé à la seule éducation de son enfant et au désir qu'on peut avoir qu'il soit sain.
Oui.
Comment cette maternité se manifeste dans la vie quotidienne, Camille de Certaines?
Alors, on fait cette expérience psychologique qui est amusante par rapport à la maternité. On lance un ballon dans une cour et on voit que naturellement, les petits garçons, ils vont shooter dedans pour le renvoyer. Et naturellement, les petites filles, elles attrapent le ballon et elles le serrent contre elles, contre leur cœur. Voilà, il n'y a vraiment pas du tout le même réflexe naturel.
C'est drôle.
Et en fait, voilà, chez la femme, il y a vraiment cet instinct maternel qui est inscrit en elle, de chérir, de protéger, d'éduquer. Alors que, c'est le professeur Écochard qui montre ça dans ses très bons livres, que chez l'homme, l'instinct paternel s'éveille par les hormones qui sont dégagées au moment de l'accouchement par le bébé. Et notamment une baisse de la testostérone et une hausse de l'ocytocine qui entraîne une implication du père vers l'enfant. Vraiment, l'homme, en fait, il est prédisposé à la paternité au moment de la naissance. Alors que la femme, elle est plus naturellement tactile dans la relation maternelle. Alors que par exemple l'homme, il est naturellement plus tactile dans le sens de la relation conjugale. La femme, elle est peut-être plus tendre avec ses enfants, alors que on sait bien que c'est souvent un enjeu pour les femmes d'être dans la tendresse avec leur mari et qu'il y a un travail à peut-être à faire pour être épouse. Et il peut y avoir plus une concurrence entre l'amour maternel et l'amour conjugal chez la femme. En tout cas, c'est plus prégnant chez la femme que chez l'homme. Alors évidemment, encore une fois, on le répète à chaque fois, mais il y a une échelle dans la féminité, dans la masculinité. Donc voilà, il y a une femme qui sera plus spontanément tendre qu'une autre, plus tactile qu'une autre, et un homme, voilà, de la même façon.
Qui peut l'être aussi, oui,
voilà.
Bien sûr.
Mais c'est quand même profondément inscrit dans la nature.
Mmh. La maternité s'inscrit donc dans la psychologie de la femme. Il y a un autre aspect de la maternité, c'est son attention à la personne.
Oui, cette question de la sensibilité, du sens du service, du sens de l'accueil, la femme, elle est guidée par son cœur. La femme, elle est, on en a déjà parlé, hein, elle est plus dans la relation, elle est plus dans l'être.
Dans l'émotion.
Oui. Elle est plus sensible à l'harmonie. Voilà, l'homme, il est plus tourné vers la chose, vers le faire, vers l'efficacité extérieure. Et notamment, c'est intéressant, mais cette différence entre l'être et le faire, eh bien, ça vient notamment du fait que la femme, pour nourrir son enfant, elle a juste à être. En fait, la production de lait maternel se déclenche automatiquement à l'accouchement. Et donc, finalement, elle a juste à être là et son enfant peut se nourrir. Alors que l'homme, eh bien, pour nourrir sa famille, il doit sortir, cueillir, chasser, prendre quelque chose d'extérieur à lui. Voilà. Et la femme, voilà, elle est plus dans l'être vis-à-vis de la personne. Et donc, eh bien, elle va être plus touchée intérieurement, en fait, même corporellement, par ce qui lui arrive. Alors que l'homme, eh bien, le corps, il a peut-être davantage un aspect objectif, en fait, un certain éloignement avec son corps, alors que la femme, comme vous le disiez, elle est plus dans ses émotions, elle est plus unifiée. Et puis, la femme, elle a vraiment ce sens du mystère de la vie. C'est cette belle expression de Jean-Paul II, femme sentinelle de l'invisible.
Oui, c'était lors de son pèlerinage à Lourdes, le 15 août 2004.
Oui, tout à fait. Et donc, on a ce beau témoignage d'Edith Stein, qui n'était pas mère naturellement, mais qui témoigne de sa vie d'enseignante. Et en fait, elle écrit que la maternité authentique, la maternité la plus belle, la plus sublime, c'est d'éveiller des enfants pour le ciel. Et donc, elle souligne bien que c'est au prix de soucis, de sacrifices, de peines. Mais elle montre combien faire jaillir l'étincelle divine dans un cœur d'enfant, voir croître, voir s'épanouir en lui la vie divine, voir l'âme même se transformer sous l'action de Dieu, bah pour elle, c'était vraiment une des plus grandes joies. Elle se sentait en fait coopératrice de Dieu comme un instrument. Et voilà, c'est vraiment magnifique, mais elle écrit que qu'éduquer pour le ciel, eh bien, ça peut vraiment combler la vie d'un être humain. Et là, on est pleinement en fait dans la maternité spirituelle.
Et voilà, et c'est exactement ce que vous dites, Camille de Certaine, c'est cette maternité qui n'est pas réservée aux mamans, oui, qui ont un enfant voilà, naturellement, mais vraiment cette maternité spirituelle, elle est beaucoup plus large, oui, et elle concerne toutes les femmes, oui, dans ce désir de sainteté de chacun.
Oui, et c'est très, oui, important. Oui.
Quels sont les enjeux de la maternité ?
Alors, un premier enjeu, c'est de voir le charnel dans le spirituel. Charles Péguy écrivait « Ce qui est spirituel est aussi charnel ». Et en fait, en d'autres termes, il voulait dire « Attention, le catholicisme, ça n'est pas un spiritualisme ». On l'a répété aussi dans les premières séances, l'idée dans la progression de la vie spirituelle, c'est pas de se dégager de son corps, mais au contraire, vraiment, c'est un chemin de l'incarnation. Donc, intégrer son corps, son cœur, son âme dans un juste équilibre. L'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire voir le spirituel dans le charnel. Voilà, on l'avait dit au début de l'interview, mais il y a un enjeu de ne pas voir dans nos activités matérielles que du matériel, et de voir aussi avec un sens surnaturel.
Oui, avec toujours ce souci de l'unité,
oui,
corps, cœur, esprit.
Oui, oui. Oui.
Comment ça se matérialise concrètement ?
Eh bien, concrètement, on sait qu'on peut avoir cette tendance, notamment pour une maman, de voir son rôle de mère uniquement comme un exercice matériel, pauvre, limité. Voilà, on l'a dit. Hein. Oui, oh là là, répétitif, parfois lassant. Bon, je pense que les mamans l'ont toutes expérimenté. Voilà, mais on peut aussi réaliser que éplucher ces pommes de terre, ça peut nous permettre de sauver le monde si on offre notre action. Voilà. Voilà, c'est vraiment des petits actes quotidiens, banals. Tous ces actes sont en fait immenses. Si on leur donne un sens surnaturel. C'est Bénédicte de Lillis, elle appelle ça la mystique des miettes. Voilà, c'est vraiment quand je passe mon coup d'éponge sur la table et que je ramasse mes miettes, eh bien, je peux en faire quelque chose de très grand. Voilà, on est vraiment dans l'amour qui se donne, l'amour qui passe dans le quotidien, dans l'ordinaire. Cet amour, il est invisible, donc il faut le voir avec les yeux de la foi, mais il est ô combien puissant.
Et c'est ce que dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle ramasse avec amour une toute petite aiguille.
Oui,
c'est,
oui,
c'est ça.
Oui,
c'est,
tout à fait.
C'est cette présence, ouais, ouais, qui peut effectivement sauver des âmes. Nous avons le temps de voir quand même, avant la pause musicale, un autre enjeu de la maternité.
Alors, l'autre enjeu, c'est l'enjeu de chasteté. Ce mot, souvent, il fait un peu fuir. On le relie souvent aussi uniquement à des questions d'éthique sexuelle. Mais finalement, il est beaucoup plus large. La chasteté, elle concerne donc notre vie conjugale, mais elle concerne aussi la vie familiale. Elle concerne le cadre professionnel. En fait, dans une vision large de la chasteté, il s'agit de ne pas posséder l'autre. La petite fille qui gardait le ballon dans ses bras, oui, dont on parlait tout à l'heure. Mais donc, il s'agit d'être dans le don. Et finalement, toutes nos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit des relations professionnelles, des relations d'amitié, d'amour, eh bien, il y a un enjeu de ne pas accaparer, mais d'être dans l'accueil, dans le respect de l'autre, dans le respect de sa singularité, de sa liberté. Donc, si on reparle de la maternité et des enfants, eh bien, typiquement, nos enfants ne nous appartiennent pas. Il y a vraiment nécessité pour les parents d'un amour inconditionnel, un amour qui n'attend rien en retour. On le sait bien, nos enfants sont confiés par Dieu, ils ne sont pas notre propriété, on sait qu'ils nous quitteront, qu'ils se détacheront, mais c'est un combat pour vraiment l'intégrer, faire sien et être dans cette posture-là. On est vraiment là pour transmettre, en tant que parents, transmettre une éducation, transmettre une foi, mais nos enfants sont libres. Et donc, ils auront leur propre chemin qui sera forcément différent du nôtre, puisqu'ils sont des personnes différentes de nous.
Oui, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a tendance à accaparer, comme toujours avec cette image de la petite fille avec son ballon.
Oui, et puis à enfermer dans notre vue, à nous. Et en fait, la femme, par nature, elle est disponible à la personne de l'autre, à la rencontre. Mais cette rencontre, elle doit se faire dans le don de soi et pas dans la captation. Et donc, le don de soi, il prend plusieurs manières. C'est le don de la chair dans la maternité physique, mais aussi le don de tout son aide, de toute son énergie, le don de son cœur. Le don de son temps, oui. Le don de soi, c'est vraiment le mouvement le plus profond de l'amour. Et la vocation de la femme, elle est dans l'amour. Mais donc, pas n'importe quel amour, vraiment dans cet amour oblatif, cet amour qui se donne. Et notamment, la femme, elle a cette capacité très belle de ressentir l'autre, de ressentir les besoins de l'autre. Donc, vraiment de se donner pleinement pour l'autre.
Et c'est vrai que vous avez raison de dire que la femme a un peu comme des antennes de deviner les besoins de l'autre parce qu'elle observe aussi beaucoup.
Oui. C'est vraiment ce lien particulier avec la personne qui est un des talents particuliers de la femme, vraiment.
Vous avez employé ce mot de captation. Comment vous le distinguez de l'amour ?
Oui, c'est important de distinguer amour captatif, donc c'est-à-dire vers soi, et amour oblatif, c'est-à-dire tourné vers l'autre. On peut employer d'autres termes aussi, on peut dire amour de concupiscence versus amour de bienveillance ou amour oblatif. Donc finalement, l'amour de captation, c'est aimer l'autre pour soi, pour le plaisir, pour le bien que l'autre me fait. Mais c'est vraiment aimer pour moi, pour ce que je peux ressentir. Pour Saint-Augustin, dans ses confessions, il dit « j'aimais aimer ». Donc il était vraiment tourné vers la satisfaction, le plaisir que lui-même éprouvait à aimer quelqu'un. Il était vraiment tourné vers lui. Mais le risque de ça, c'est d'utiliser l'autre, en fait.
Et oui, c'est ça. Là, on retrouve la chasteté.
Exactement. Alors que l'amour don, c'est aimer l'autre pour lui-même. Donc évidemment, l'autre est un bien pour moi, j'ai du plaisir à être avec lui, j'ai de la joie, mais c'est un fruit en fait, c'est pas ça que je vais rechercher. Et le but recherché, c'est vraiment le bien de l'autre et son bien qui va devenir mon propre bien. Et la personne, c'est vraiment un mystère, elle nous dépasse infiniment. L'autre est un mystère, mais moi, je reste un mystère pour moi. Et c'est très beau et justement ça nous permet de rester dans cette posture d'accueil de l'autre, d'accueil de moi-même et non de captation. Donc d'être vraiment dans cet amour de bienveillance.
Et on le voit dans les couples qui ont un certain nombre d'années de mariage, l'un et l'autre demeurent un mystère pour eux-mêmes et pour l'autre.
C'est très beau.
C'est très beau. Alors je vous propose, Camille Certaine, de marquer une petite pause musicale. Nous écoutons Four Last Songs de Strauss, interprété par Elsa Drezy avec l'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Tarmo Peltokowski. Thank you.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour dans notre sixième émission sur l'anthropologie chrétienne avec Camille de Certaines pour préciser aujourd'hui et définir ce qu'est la maternité spirituelle. Avant cette pause musicale, Camille de Certaines, vous avez distingué la captation de l'amour. Cet amour qui n'est pas captation, vous l'avez dit, entraîne un autre enjeu qui est d'aimer l'autre pour le faire grandir.
Oui, il y a vraiment cet enjeu d'aimer l'autre, alors l'autre hein, de manière large, quel qu'il soit, d'un amour de mère dans le sens d'un amour qu'on peut appeler d'enfantement. Qu'est-ce que j'entends par là ? L'enfantement, c'est mettre au monde, donner au monde. Et donc on voit que c'est tout le contraire de l'amour captatif qui lui garde pour soi. La femme, elle est éducatrice en humanité. Donc elle a vraiment une capacité spéciale à faire grandir l'humanité de l'autre. Et si on prend un exemple, si on est une conversation entre amis, et puis voilà, la conversation peut dévier sur de la malveillance ou de la médisance, eh bien, peut-être que si l'une est gardienne du respect, de la bienveillance, voilà, vraiment dans la charité.
Et de la vérité aussi.
Et de la vérité, oui. Voilà, donc dans cette idée de correction fraternelle, bah, là, on voit que nos relations avec autrui, c'est un tremplin pour grandir. Pour grandir en humanité, pour les révéler à eux-mêmes. Voilà, c'est le sens de la correction fraternelle, finalement.
Oui, oui c'est ça. Ouais. La maternité implique aussi d'accepter de ne pas vivre que pour soi. Vous avez beaucoup, évidemment, parlé du don. Ça paraît évident quand on a des enfants à s'occuper au quotidien, mais c'est une vigilance aussi à avoir tout au long de sa vie et quel que soit son état de vie.
Oui, quand on n'a pas de maternité naturelle, que ce soit par son état de vie, ou si on est célibataire, ou alors si on est une maman dont les enfants ont quitté la maison, ou alors voilà certaines femmes hein, qui pourraient carrément refuser la maternité, refuser d'accueillir cette potentialité. Ou alors aussi, il y a un enjeu de vivre à l'extérieur de soi. On en avait déjà parlé hein, dans l'importance de l'intériorité. Finalement, refuser cette intériorité donc du corps, mais aussi du cœur, de l'âme, et être toujours un peu comme à l'extérieur de nous-mêmes. La femme, profondément, elle désire recevoir l'amour, mais, c'est important, ça la rend vulnérable. Et donc, soit elle refuse cette vulnérabilité parce qu'elle veut être dans le contrôle, elle veut être dans l'indépendance, elle veut être peut-être même dans la domination, soit elle accepte sa vulnérabilité, elle accepte qu'elle a besoin des autres, finalement qu'elle est plus dans une interdépendance et pas dans une indépendance. Et alors finalement, cette réceptivité à l'amour, eh bien, ça va l'élever parce qu'elle va augmenter sa compréhension du monde, sa richesse intérieure, elle va être vraiment dans l'accueil et pas dans la fermeture en fait. Et je pense que c'est vraiment important ces deux aspects, accueil, fermeture. Quand on est ouvert au monde, à l'amour, eh bien, on est dans la croissance. Quand on se ferme parce qu'on veut être dans la domination, on veut être dans le contrôle, il n'y a pas de croissance possible, en fait.
Pardon de vous couper, mais pourquoi vous dites que la femme devient vulnérable quand elle reçoit l'amour ?
Ah, parce que l'amour, ça fait souffrir.
Ah oui, dans ce sens-là.
Ouais. En fait, on sait très bien, hein, l'amour, c'est lié à la souffrance. Et en général, plus mon amour se purifie, plus je vais devoir passer par des souffrances. Justement, parce qu'on n'est plus, comme on le disait au départ, dans un amour de captation. Je suis dans le plaisir pour moi. Voilà, et tant que je suis dans le plaisir pour moi, bah, ça va bien, j'accepte d'aimer. Et puis dès que je commence à avoir de la contradiction, des difficultés, de la souffrance, bah, je refuse cette souffrance, cette vulnérabilité. Et donc, hop, je coupe la relation. Voilà, et or, bah, pour se donner, il faut accepter de voilà, il faut accepter qu'il y ait une part de souffrance. Mais en même temps, c'est là, quand je sors de moi-même, que je vais pouvoir devenir une bénédiction pour les autres, en fait. C'est vraiment cette attitude de générosité qui va me rendre profondément heureuse. Mais donc, finalement, quel que soit l'état de vie de la femme, qu'elle soit célibataire, qu'elle soit mariée, qu'elle soit religieuse, eh bien, elle est concernée par le don de soi. C'est très beau, Edith Stein, elle écrit qu'être féminine, c'est plus que notre état de vie ou notre situation, c'est anoblir toute situation par l'amour. Et donc, toute femme, quel que soit son état de vie, est appelée à anoblir toute situation par l'amour, à aimer.
Ça n'est pas qu'une question visuelle ou de look.
Oui,
voilà. Ouais, ô combien. Alors, que dire de cette image de la maternité considérée aujourd'hui comme une aliénation ? Simone de Beauvoir l'a dit haut et fort. Aujourd'hui, on a de nombreuses influenceuses qui l'affirment aussi. Que diriez-vous, Camille, de certaines ?
Alors, c'est vrai que Simone de Beauvoir, elle a vraiment cette conception. Pour elle, la femme s'aliène dans la maternité, justement parce qu'elle ne contrôle pas, qu'elle est même le jouet de forces qui sont extérieures à elle, en fait, même de forces physiologiques. Pour Simone de Beauvoir, la femme s'asservit dans ses fonctions naturelles. Et du coup, c'est une contrainte qui va l'empêcher de s'épanouir dans la vie sociale, dans la vie intellectuelle, dans la vie professionnelle ou dans la vie politique. Vraiment, pour Simone de Beauvoir, c'était un objectif de permettre à la femme de ne pas engendrer pour se libérer de cet esclavage. Et donc, voilà, de là vient ce refus de la maternité chez elle.
Ce qui est étonnant, c'est qu'elle voit cette maternité et toute cette constitution de la femme comme quelque chose d'extérieur, alors que c'est vraiment intrinsèque.
Oui, ouais. Il y a peut-être parce qu'elle-même a refusé ça, et du coup, elle a coupé le lien avec son cœur, justement, pour comprendre le sens véritable de ça. On peut dire quand même qu'elle s'est fait le porte-voix des femmes qui étaient issues de ce milieu petit bourgeois, qui était très étriquée, en fait, vraiment, hein, des sociétés 19e, début 20e, voilà, qui avait une vision de la femme très étriquée, très misogyne. Donc ça c'est indéniable. Mais quand même, ce qui est flagrant, avec le recul, c'est que pour elle, le modèle parfait qu'elle nous présente, c'est un modèle masculin. Donc finalement, elle, en tant que femme, elle nous dit la supériorité est dans le modèle masculin. Parce que pour réussir, la femme doit s'affranchir de son être de femme et finalement devenir un homme comme un autre.
Mais donc du coup, c'est une négation complète de l'identité féminine.
Complète. Mais oui, parce que finalement, elle prétendait libérer les femmes, mais en faisant ça, eh bien, elle perpétue la domination du modèle de valeur masculine. Pour elle, c'est la gloire des guerriers est beaucoup plus glorieuse que la transmission de la vie, vraiment. Mmh. Et le seul modèle auquel les femmes doivent tendre, finalement, c'est le modèle masculin.
Est-ce qu'elle ne se nie pas en tant que femme ?
Oui, on peut vraiment se demander si elle ne s'est pas empêchée de trouver sa voie spécifique pour s'accomplir en tant que femme. C'est souvent le paradoxe du féminisme qui se soumet au modèle masculin. On le voit vraiment dans de nombreux arguments féministes actuels. Et on peut répondre à Simone de Beauvoir. Elle était très impliquée dans le monde de la culture, de la réflexion, de la philosophie, voilà. Mais on peut lui dire, justement, est-ce que ce développement de la culture, il n'est pas intimement lié à l'éducation, à l'enseignement, à l'art, qui sont des domaines où la femme a toujours été très présente. Toutes les femmes artistes, les communautés religieuses enseignantes, soignantes, les nombreuses femmes guides, conférencières. Enfin, voilà, justement, la femme, là, elle a quelque chose de son être de femme à déployer et qui va être enrichie par profondément son être de femme.
Finalement, la maternité toute femme, sa fécondité se manifeste comme dans un gigantesque accouchement.
J'aime beaucoup cette image de l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe pendant un accouchement ? On avait un petit être qui était bien au chaud, bien en sécurité dans le ventre de sa maman, qui était bien paisible, qui était tout fini, on peut dire, dans le sens où le corps est prêt. En fait, c'est comme un mini-adulte. Et puis, il se retrouve propulsé par un chemin qui est difficile pour la maman, mais qui est difficile pour l'enfant aussi. Il se retrouve propulsé dans le monde. Et là, cet enfant, il se retrouve nu, faible, vulnérable. Il crie parce que l'air qui rentre dans ses poumons tout neuf lui fait mal. Il a froid, il a besoin d'être couvert, il a besoin d'être réchauffé, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'être nourri. Donc en fait, naître, c'est devenir petit, limité, c'est sortir de son confort.
C'est un arrachement.
Oui, complètement. C'est découvrir que tout n'est pas dû, que la vie ne va pas de soi. Et pour la femme, pour la mère, eh bien, l'accouchement, qui est vraiment une des plus grandes joies de la vie, c'est aussi des souffrances, des douleurs, des incertitudes, des déchirements, un arrachement, comme vous le dites. Et donc, il faut accepter ce saut dans le vide, accepter ce passage de ce qui était adulte, ce qui était fini en nous, eh bien, que ça sorte de nous de manière appauvrie, limité, faible. Et c'est ça, hein, accepter de donner de soi complètement.
Alors, nous pouvons élargir cet accouchement à des situations autres que celles de la venue au monde d'un enfant.
Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image, parce qu'évidemment, elle est valable pour un enfant, mais elle est valable pour tellement de choses, pour un projet, pour une relation humaine. En fait, on conçoit des choses en nous, on imagine, on aime, on prépare, mais c'est en nous, voilà. Mais par contre, ça semble parfait. Vraiment, tant que c'est en nous, ça semble parfait. Et il faut le donner au monde maintenant.
Et confronter.
Le confronter au monde, tout à fait. Et accepter que ça ne sera pas parfait. Ou en tout cas, peut-être pas tout de suite, que ce sera limité. Mais en tout cas, ça sera, ça existera. Parce que tant que ce n'est pas sorti de nous, il n'y a rien. Et donc, travailler, se lancer dans des missions, des projets, se donner en amitié, se donner en amour, eh bien, c'est risquer la faiblesse, c'est risquer la contradiction. Mais c'est aussi le signe qu'on ne se garde pas pour soi, qu'on avance. Et c'est très beau, hein, vraiment, en engendrant la femme, elle se révèle à elle-même. Elle se révèle sa propre capacité à aimer, à se donner, à être forte, à supporter. Mais tant qu'elle n'a pas engendré, tant qu'elle ne s'est pas donnée, elle ne le verra pas, ça.
Oui, c'est ça. Donc, il y a une prise de risque quand même à prendre, oui, justement, oui. Pour donner, apporter un projet au monde, oui. Et risquer de le voir modifié, oui, ou, oui, rejeté.
Oui, oui,
mais c'est nécessaire.
Mais c'est nécessaire. Et c'est beau, surtout. C'est beau et ça donne de la joie.
Oui, bien
ça,
sûr.
Porter du fruit, ça donne de la joie.
Ça, c'est vrai. Alors, il ne faudrait pas occulter quand même la part de souffrance dans tout enfantement. Vous l'avez un petit peu précisé tout à l'heure, mais plus largement.
Oui, voilà, on l'a dit, hein, c'est beau, c'est merveilleux. Mais oh oui, l'enfantement, c'est aussi le dépouillement, la kénose, l'abaissement. Bénédicte de Lillis, elle écrit « Pas de maternité sans souffrance, comme il n'y a pas d'amour sans souffrance ». Voilà, vraiment, la souffrance, elle va nous arracher à l'égoïsme pour nous faire sortir de nous-mêmes. Benoît XVI parle d'exode, voilà, il prend vraiment cette image de l'exode. Et donc forcément, il y a une forme de renoncement. Voilà, on l'a dit, hein, pour les projets, si on prend cet exemple, bah, parfois ça met du temps pour aboutir, ou parfois même ça ne va pas aboutir parce qu'il y a eu un mauvais discernement ou des erreurs de choix. Voilà, mais donc voilà, il y aura forcément une part de renoncement. Madeleine Delbrel, c'est une essayiste mystique catholique qui était aussi assistante sociale, elle a vécu au XXe siècle, elle était très impliquée dans le soutien du monde ouvrier. Elle a cette phrase très parlante, elle dit « En face de l'homme au travail, il y a la femme en travail ». Voilà, vraiment, ça rappelle cet enfantement. L'homme, quand ce qui produit un travail, il fait quelque chose qui est extérieur à lui. La femme, eh bien, elle va donner d'elle-même, elle doit ajouter quelque chose d'elle-même. Ça doit partir de son cœur. Et alors, eh bien, voilà, il faut qu'elle accepte de souffrir. Fabrice Hadjadj parle de la joie déchirante de l'offrande. Parce qu'en mettant au monde, en se mettant ainsi au monde, en quelque sorte, elle va aussi, par là, se découvrir, se connaître elle-même et finalement déployer son être. Voilà, c'est ce qu'on disait dans la phrase de Gaudium et Spes au départ. Hein. Il faut vraiment, pour s'épanouir en tant que personne, eh bien, il faut vraiment se donner. On peut citer la prophétie d'Isaïe au chapitre 54. « Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Élargis l'espace de ta tente, car tu vas éclater. Car tu vas te répandre au nord et au midi. » Ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertées. Voilà, vraiment, la maternité, elle élargit notre chair, notre cœur, évidemment par les enfants, mais beaucoup plus largement que ce qu'on pourrait imaginer, dans le sens où la maternité, notre maternité de femme, elle s'exerce bien au-delà des enfants qu'on pourrait mettre au monde. Voilà, vraiment, c'est le sens de cette phrase, élargis l'espace de sa tente et de ta tente. Et on n'imagine pas jusqu'où cela peut nous mener, parce qu'on n'imagine pas les plans du Seigneur qui nous dépassent infiniment. Oui. Et donc, en ce sens, en fait, si la femme, elle se met au service de l'accomplissement d'un être, alors elle est mère.
Ouais. Pour conclure, Camille de Certaines, en quoi la maternité dépasse la personne même de la mère ?
La femme, elle est appelée à réenfanter le monde. Bénédicte de Lillis écrit « La maternité a pour objectif un autre que soi, que cet autre naisse, croisse et s'envole vers sa destinée et sa mission. » Donc finalement, il y a vraiment ces deux pôles pour la femme. Le premier pôle, il nous est donné par Gertrude von Lefort, soit une vraie femme et fais ce que tu veux, c'est-à-dire vraiment grande liberté d'accomplissement de notre vocation de femme, car chacune de nous est unique, donc chacune va se donner de manière unique, donc chacune va vivre cette maternité de manière unique. Ça, c'est le premier pôle. Mais voilà, donne-toi et sois une femme. Et le deuxième pôle, il nous est donné par Benoît XVI dans son encyclique Spe Salvi. Il a cette phrase magnifique. L'autre est-il si important que je devienne pour lui une personne qui souffre ? Alors, pour voilà, essayer de méditer un peu cette phrase, on peut se poser ces questions. Quel est le but de ma vie ? Quel est le but de mes actions ? Quel est le but dans le fait de me donner ? Est-ce que c'est moi-même que je recherche ou est-ce que c'est l'autre ? Est-ce que c'est ce que j'aime, ce que le Seigneur me confie ? Et là, on, voilà, on voit, il y a quelque chose de très important dans la maternité, c'est la notion de compassion. Vraiment, la femme, elle est capable, plus que tout autre, de souffrir pour quelqu'un, de souffrir avec quelqu'un, de pleurer avec quelqu'un. Et là, vraiment, le plus beau modèle de maternité spirituelle qu'on peut avoir, c'est celui de la Vierge Marie, qui est vraiment devenue mère de l'humanité au pied de la croix, après avoir donné son fils. Donc voilà, on a vraiment... ça reprend tout
cette
ce qu'on
oblation.
A dit. Voilà, cette oblation, elle a donné la chair de sa chair, son cœur. Le Seigneur a élargi l'espace de sa tente à toute l'humanité. Et ça s'est fait au pied de la croix. Donc cet amour immense, il s'est fait aussi dans la souffrance.
Voilà, pas de plus bel exemple de maternité spirituelle que la Sainte Vierge. Merci beaucoup, Camille de Certaines, de nous avoir expliqué cette belle vocation qu'est la femme, en tout cas dans sa maternité spirituelle.
Merci, Isabelle.